Seigneur Jésus-Christ, nous avons parlé la semaine dernière du pardon, comment il y avait une relation logique et profonde entre recevoir et donner le pardon. Pardonner, Seigneur, c'est au cœur de qui tu es. Et tu veux nous enseigner tout ce qui est en jeu dans cette attitude, dans cette démarche. Donne-moi d'être un bon porte-parole de ta parole, pour que nous puissions mieux comprendre qui tu es, Père Céleste, et pourquoi le pardon est un élément fondateur pour nos vies aussi, pour que nous puissions vivre une vie joyeuse, gracieuse, paisible, d'enfant de Dieu. Merci Seigneur de bénir ce temps et de nous guider, de nous donner dans ta grâce de voir dans nos cœurs ce que toi tu veux nous enseigner à chacun de nous. Merci Maître. Amen. Amen. Les outils techniques sont une bénédiction, mais ils sont aussi une fragilité. Parce que une lampe de projecteur, si ça ne marche plus, il n'y a plus de projection. Donc j'étais bien content d'avoir un texte imprimé pour ce matin. Alors ce qui manquait, c'est la présentation, c'est être disciple de Jésus-Christ, recevoir le pardon et le donner. Être disciple de Jésus-Christ, recevoir le pardon et le donner. Pour bien donner le pardon, il faut bien le recevoir. Et pour bien recevoir le pardon, il faut savoir et comprendre qui est Dieu. En général, on arrive à l'église et on a toute une histoire. On a une famille, on a des relations frères et sœurs, on a un contexte, le lieu où on habite. Et on a une idée de comment le monde fonctionne, on a une idée comment Dieu fonctionne. Et on se dit, il marche comme ça. Et je vais vous donner une technique toute simple. Si vous voulez savoir quelle est l'image que vous avez de Dieu dans votre jeunesse, pensez à quel a été le témoignage de vos parents, de votre père en particulier, et de votre mère aussi. Quel a été leur témoignage ensemble? Est-ce que, par exemple, si vos parents étaient toujours séparés, vous allez avoir l'impression que Jésus, Dieu le Père, ils sont d'accord? Non, vous aurez du mal à comprendre cela. Si vous avez eu un père distant, comment est-ce que vous allez comprendre que Dieu peut être un père qui est proche de vous? Si vous avez eu un père qui était coléreux, comment comprendre que Dieu est doux? Et ce que vous allez faire, inconsciemment, c'est vous allez chercher dans la Bible tous les versets qui ont l'air de justifier que ce que vous avez vécu dans votre famille, c'est comme ça que Dieu est. Il y en a certains, ils se disent par exemple, mon père était colérique, donc Dieu est colérique. Ah, verset tant, telle page, je me mets en colère et je me venge sur mes ennemis. Je l'ai, Dieu est comme ça, il est comme mon père. D'autres, ah, mon père ou ma mère, ils étaient absents. Ah, l'histoire de Job qui crie et Dieu n'est pas là. Voilà, c'est exactement, j'ai compris la Bible, je connais la parole de Dieu. La parole de Dieu n'est pas faite pour justifier nos idées, mais pour nous guider dans la vérité, nous guider dans qui Dieu est. Et Jésus, lui, savait bien que l'idée qu'on a de qui Dieu est complètement tordue. Il y avait un moine allemand qui s'appelait Eckhart, on l'appelait même Maître Eckhart, vers le XIIe siècle. Sa prière, c'était Dieu, c'était une de ses prières, il disait « Dieu, délivre-moi de Dieu ». Dieu, délivre-moi de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Il disait, Dieu, tu vois que je ne comprends pas très bien qui tu es. Délivre-moi de ces idées fausses, afin que je puisse entrer en relation avec toi tel que tu es. Afin que je puisse être en relation avec toi tel que tu es. Et comprendre qui Dieu est le fondement sur lequel on va pouvoir poser ensuite les étapes de recevoir le pardon et de le donner. Et aujourd'hui, j'aimerais insister sur la question du caractère de Dieu. Ce que je vous partage n'est pas nouveau. C'était déjà le cas au temps de Jésus. Au temps de Jésus, il y avait deux groupes. On se disait, de toute façon, Dieu, c'est très difficile de faire ce qu'il demande. Le premier groupe disait, on n'y arrive pas, c'est perdu d'avance, on n'y arrivera jamais. C'était les pêcheurs, les collecteurs d'impôts, les ceux qui pour les vrais religieux, se disaient cela, il n'y a rien à faire. C'est même pas la peine d'aller leur parler, ils sont condamnés à l'enfer. Qu'est-ce qu'a fait Jésus? Il a été vers eux. Est-ce qu'il leur a dit, d'abord vous devez devenir complètement parfait et après je vais venir vous voir? Il leur a dit, venez, suivez-moi. Mais d'abord, il est venu les rencontrer. Il ne les a pas jugés. D'abord, il les a invités. Le deuxième groupe, après les collecteurs d'impôts, les pêcheurs, les gens qui n'étaient pas vraiment considérés comme religieux, c'était les pharisiens, ceux qui se disaient, nous, on a fait suffisamment pour que Dieu, le Père, qui est un Dieu dur, un Dieu qui est distant, qui est un petit peu violent aussi, nous pardonne. Ou, pardon, nous pardonne pas. Il n'y a pas besoin de nous pardonner. On est juste, on est avec Dieu et on n'a pas de problème. Et nous, on est sauvés. Les autres vont aller en enfer. C'est ce que des gens diront même, par exemple, dans l'évangile de Jean, quand il y a le monsieur qui est né aveugle et qui est guéri par Jésus, il va y avoir les pharisiens qui sont en colère parce que l'homme aveugle dit, c'est un prophète cet homme. Ils lui disent, tu es né dans le péché. Va-t'en, fils du démon, quasiment. Parce qu'ils se disent, s'il était aveugle, c'est que finalement il avait péché. Et souvent dans ce monde, on peut être tenté de dire, celui qui a des difficultés dans sa vie, c'est parce qu'il a fait quelque chose de tordu. C'est pratique, hein? Un tel est malade, c'est parce qu'il a fait quelque chose de mal. Un tel souffre, ou il y a eu des problèmes dans sa vie de famille, celui-là, il est rejeté de Dieu. Nous sommes acceptés de Dieu et nous allons réussir. Ça marche jusqu'au jour où vous-même, vous êtes en échec, ou jusqu'à où moi-même je suis en échec, et là, dans ce cas-là, on se dit, ah, est-ce que moi, si je suis rejeté? Parce qu'on confond la facilité de notre vie avec la relation avec Dieu. Et Jésus, il savait tout ça. Jésus, il savait ces idées qu'on a sur qui est son Père. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a passé plus de la moitié de son ministère à expliquer qui était Dieu le Père. Il a dit, priez notre Père qui est dans les cieux. Il leur a dit, aimez vos ennemis, parce que votre Père céleste qui est dans les cieux fait pleuvoir sur les bons et sur les méchants. Il donne son soleil à ceux qui sont justes et à ceux qui sont injustes. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire, Dieu, il n'aime pas seulement certains, il aime tout le monde. Et Jésus, il se disait, bon, il va falloir vraiment y aller franchement. Je vais leur donner une parabole. Je vais leur montrer un peu, en gros, combien ils sont dans l'erreur et découvrir quel est le cœur de Dieu. L'amour miséricordieux du Père. Un Père tel qu'on a du mal à imaginer des fois dans ce monde, mais le Père céleste, celui qui nous a créés. Et j'aimerais vous inviter à vous tourner vers Luc chapitre 15, les versets 11 à 32. C'est l'histoire du fils retrouvé. On dit des fois le fils prodigue. J'aimerais vous lire d'abord les versets 11 et 12. Vous voyez d'abord, alors l'image, vous regardez, il y a un père là, qui est tout seul avec un fils derrière qui a les bras croisés. Vous voyez celui qui a les bras croisés? Ça c'est le fils aîné, celui qui va critiquer à la fin. À gauche, vous avez un fils en premier plan qui est sur le cheval, qui a une sorte de gros baluchon à l'arrière du cheval. Ça c'est l'héritage qu'il est en train d'emmener, qu'il a pris du père et il se dit, moi je m'en vais, je vais vivre ma vie. Et c'est le début de l'histoire. Et vous voyez les numéros 13 à 16, d'abord 11 et 12 en haut, c'est pour montrer que c'est quand le fils indigne va partir, va quitter son père. Ensuite en bas, 13 à 16, attaché au sabot du cheval, c'est l'histoire quelle va être l'expérience de ce fils qui s'éloigne du père. Ensuite les versets 17 à 19, quand il va revenir. Vous voyez? Après vous voyez les numéros 20 à 24 entre le père et le fils. Ça va être le dialogue, quand le fils va revenir. Ça va être d'abord l'attitude du père avec le pied, parce qu'il va courir vers le fils au verset 20. Et ensuite, quel va être le dialogue? 31 à 32, ça va être... Ensuite, tout à droite, vous avez le fils méchant, fils aîné, le fils qui va être critique, si vous voulez. Ça sera les versets 25 à 30. Et ça, c'est comment le fils qui est toujours resté près du père va réagir. Et ensuite, vous avez la conclusion au milieu, toujours sur le Père, parce que Cette histoire n'est pas par rapport à des fils, elle est par rapport à un père avant tout. On appelle ça la parabole du fils retrouvé. Je dirais c'est la parabole de l'amour miséricordieux du père avant tout. Et 31-32, ça va être la conclusion de la parabole. J'aimerais commencer par vous lire les versets 11 à 12. Jésus parle dans ce chapitre 15 de Luc de d'abord une brebis perdue, ensuite une pièce perdue et comment il y a de la joie à retrouver cette pièce ou retrouver cette brebis. Là, il raconte une histoire encore plus profonde par rapport à cette joie de retrouver celui qui était loin. Il dit encore, c'est Jésus qui parle. Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Il faut bien comprendre, dans la situation de l'époque, les enfants restaient avec les parents quasiment toute leur vie. Quand le fils allait devenir indépendant, avoir une épouse, il allait construire un petit morceau de maison à côté de la maison du père pour son épouse et lui-même. Donc, j'en avais parlé à Pierre et Juliette. Quelque part, Pierre, ta petite maison à côté, ça fait penser au temps de Jésus, comment ça se passait pour des enfants. On construisait la maison du côté du fils. Donc, c'était le fils et qui invitait ensuite sa femme à vivre avec lui. Et finalement, c'était la façon classique. Et quand on pense à Jésus dans Jean chapitre 14 qui dit « Je vais auprès du Père vous préparer une place ». Imaginez comme l'époux qui commence à construire la maison, la petite morceau de maison, pour inviter l'épouse. Et l'épouse, c'est l'Église. C'est nous. Jésus qui prépare la place pour nous accueillir, déjà. Et là, le fils dit « Donne-moi mon héritage et je vais partir ». D'abord, demander son héritage, c'était quelque chose qu'on ne faisait pas. C'était le père qui choisissait quand il le donnait et comment. Là, le fils choisit tout de suite et il ne se préoccupe pas des problèmes que ça cause. Parce que c'est vrai, il y avait des règles sur l'héritage de partager les biens entre les fils. Les filles deviendraient finalement partie de la famille de leur époux. Donc, c'était entre les fils qu'on répartissait l'héritage. Mais répartir l'héritage, si vous avez par exemple une ferme et qu'il y a un des deux fils qui vous dit « Donne-moi l'héritage », comment vous faites ? Vous cassez la ferme en deux ? Il n'y a qu'une seule technique, vous êtes obligé de vendre. Et ça peut être catastrophique, parce que finalement, pour vous, ça peut détruire tout ce que vous avez commencé à construire. Comment réagit le père ? Il ne dit rien. Il va donner l'héritage, et vous allez voir que l'autre fils, lui, il a trouvé que ce n'était pas juste. Donc il donne l'héritage. Et maintenant, on va lire au verset 13 à 16, qu'est-ce que va faire ce jeune homme. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Jésus est en train de raconter une histoire au peuple juif. Il raconte un fils qui d'abord demande son héritage. Signe de manque de respect profond du père. Ensuite, quand le père deviendrait âgé, qui va prendre soin de lui ? Ce fils brise aussi le commandement de « tu honoreras ton père et ta mère ». Et il s'en va. Une fois qu'il s'en va avec cet argent que le père a probablement gagné durant toute sa vie, qu'est-ce qu'il fait avec ? Il le dilapide en très peu de temps. Il va dissiper son bien en vivant dans la débauche. Alcool, femme, tout ce que vous pouvez imaginer, cet argent disparaît très vite. Quand il a tout dépensé, il y a la famine et il se trouve dans le besoin. Donc pour les gens qui écoutent à l'époque, dilapider le bien du père, c'est une insulte, c'est une honte, c'est vraiment un manque de respect le plus profond. Quand on se dit, mais ça a été quelque chose de précieux, le père le donne et le fils, qu'est-ce qu'il fait avec ? C'est comme si ça n'avait aucune valeur. Quand on reçoit un bien d'une personne qu'on ne respecte pas, souvent on ne va pas respecter le bien. Et le fils manque de respect envers son père, il rejette. Et il va avoir une étape suivante. On voit dans les versets 15 qu'il va se mettre au service d'une personne. Il va devenir le serviteur d'une personne pour faire quoi? Pour garder des porcs. Pour garder des porcs. Il raconte cette histoire à qui, Jésus?
Aux Juifs.
À des Juifs qui ne mangent pas de porcs. Et donc, qui n'élèvent pas de porcs. Il n'y a pas de porcs en Israël. Ça n'existe pas. Donc ça veut dire qu'il est allé en dehors du peuple juif. Et qu'est-ce qu'il va faire?
Il va convoiter le manger du cochon.
Il va nourrir des porcs et convoiter ce que le porc mange, et lui-même, il n'a pas le droit d'en manger. C'est, si vous voulez, le degré le plus élevé de rejet de la culture juive, de la culture du père, de ce que le jeune a connu quand il a grandi, si vous voulez, pour les gens de l'époque. Et Jésus, celle-là, il l'écrit, cette parabole, pour les pharisiens. Il veut vraiment leur faire comprendre quelque chose. Il veut vraiment leur faire comprendre quelque chose de fondamental. Donc on voit ce fils qui a tout raté, a quitté la relation avec le père. Il n'est pas fait mention de violence du père du tout. C'est le fils qui veut partir et faire sa vie, qui détruit tout ce qu'il avait, qui rejette tout ce qu'il avait, et qui se retrouve serviteur, sans argent et sans manger. Là, le fils va commencer à réfléchir. Versets 17 à 19. Le retour du fils. Étant rentré en lui-même, il se dit, « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » En gros, il est en train de se dire, finalement, tant qu'à faire, chez mon père, si on travaille, on a à manger. Là, je travaille et j'ai même pas à manger. Peut-être qu'il avait un toit où dormir, on ne sait pas. Mais là, il se dit, si je travaille chez mon père, au moins j'aurai à manger. Donc, même si je suis esclave, j'étais fils, maintenant je serai esclave, mais c'est pas grave. Dans le verset 18 et 19, il dit, il réfléchit, il se dit, ok, comment je vais revenir? Il va revenir en disant, il prépare les paroles. Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Donc il a préparé son speech, il a préparé son discours, ce qu'il va dire à son père quand il revient. Maintenant, observez bien la réaction du père. Versets 20 à 24. Il se leva et alla vers son père. Comme il était encore bien loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Début de son speech, de ce qu'il a préparé de dire. Il n'a pas fini, il veut dire, « Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Mais il n'a pas le temps. Au verset 22, le père va prendre la parole. 22 jusqu'à 24. Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez-moi vite la plus belle robe et revêtez-le. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Le père, quand il a vu le fils, a couru vers lui. Est-ce que le fils courait vers son père, à votre avis?
Non.
Non, il devait revenir
tout penaud,
un peu embarrassé, et son père va courir vers lui. Dans la culture juive, on ne court pas. On ne court pas, et au niveau de la dignité, ce n'est jamais le plus âgé qui va revenir à la rencontre du plus jeune, c'est le plus jeune qui doit faire l'effort pour la rencontre avec le plus âgé. Là, vous avez un père qui va courir vers son fils. C'est presque déshonorant. C'est presque déshonorant pour la culture de l'époque. Il va courir vers son fils. Non seulement il fait cela, ensuite il écoute son fils qui lui dit « J'ai péché contre le ciel et contre toi. » Est-ce que le père lui dit « Ok, vas-y, décris-moi tous tes péchés. Mets-toi à genoux. Je veux une confession en ordre. Qu'est-ce qu'il fait, le Père ?
Il demande au serviteur de lui donner le vêtement neuf. Et puis,
il fait comme ça. Il le coupe aussi. Il ne veut pas entendre plus.
C'est pas la peine.
Voilà. Il le coupe et il parle d'autre chose. Il parle, mais on se réjouit, c'est bon.
Il voit que son fils se repent, qu'il revient, ça lui suffit. Des fois, nous, on a des techniques, on se dit, peut-être que je n'ai pas confessé tous mes péchés. Il y a des chrétiens, des fois, qui vivent toute leur vie en se disant, j'ai dû oublier de confesser un péché. Avec l'idée, si je confesse mon péché, Dieu peut me pardonner. Mais si je n'ai pas confessé mon péché, est-ce que Dieu me pardonne, à votre avis ?
Il connaît le péché.
Il les connaît déjà. Est-ce que le Père a pardonné le Fils après qu'il soit revenu ou avant ?
Avant.
Il lui a pardonné avant. Il lui a pardonné avant. Non seulement il lui a pardonné, mais il est prêt à le rétablir dans la relation, en lui offrant des vêtements pour qu'il soit réhabillé avec dignité, pour que le Fils, ce Fils qui a perdu tout respect, toute dignité, tout respect, pour lui-même aussi, il était prêt à nourrir des porcs. Pour l'époque, c'était le plus déshonorant. Mais là, le Père le réhabille, lui redonne la dignité. Il lui a montré patience, pardon, et on voit qu'il y a une impatience quasiment pour le Père de rétablir son fils. Nous, des fois, quand on s'éloigne de Dieu, comment on s'imagine Dieu ?
Père fouettard.
Père fouettard. Et puis, quand on doit revenir à Dieu... Ah, j'en ai marre de me repentir. C'est comme si à chaque fois, il fallait dire tous les mots. Des fois, on a un peu appris ça, il fallait dire tous les mots. Si tu t'es pas repenti auprès d'un tel, tu vas pas être pardonné. Est-ce que c'est cette histoire qui est comme ça ?
Non.
Non. Et on va avoir ensuite... Oui, Dominique, tu avais une question à poser.
Ce que je trouve très intéressant, c'est en plus... C'est parce qu'il ne sait pas qu'est-ce que son fils a fait, lui, quand il revient. Il ne s'est même pas intéressé de savoir est-ce qu'il avait déjà dépensé tout l'argent, ou il revient, il avait encore tout son héritage avec lui. C'est un point important aussi.
Ouais.
Il ne s'est même pas soucié de ça.
Il ne s'est pas soucié de ça. Est-ce qu'il a eu besoin de connaître tout ce que son fils avait fait pour lui pardonner ?
Non.
Quand nous venons à Dieu... Nous avons parfois la confusion de croire que si on ne confesse pas nos péchés, nous ne serons pas pardonnés. Si on ne confesse pas nos péchés, on ne va pas être pardonné. Je vais vous dire une vérité paradoxale. Dieu a déjà pardonné vos péchés. Dieu a déjà pardonné vos péchés. Il vous attend, comme ce père qui attend son fils. Ce qu'il attend, c'est que vous vous détourniez du péché pour venir à lui. Le péché, c'est ce qui rend esclave. C'est ce qui nous détourne finalement de Dieu. Et Dieu nous invite à revenir à lui. Est-ce qu'il va nous humilier si on revient à lui ?
Non.
Est-ce qu'il va essayer de prouver qu'il avait raison et qu'on avait tort ? Nous écraser comme une mouche ou comme une fourmi qu'on veut écraser ?
Non.
Il va nous élever. Il va nous élever parce que on a été créé à l'image de Dieu. Il voit ce qu'il a besoin de voir. Il voit que son fils revient à lui. C'est ça le point important. C'est ça le point que Dieu veut voir. Il voit que son fils se détourne du péché et vient vers son père. C'est ça qui est important. Et pour Dieu, c'est pareil. Alors nous verrons plus tard, un peu plus, les versets 25 à 31, j'aimerais vous inviter à tourner la page. Vous avez une prière sur le haut de la page. C'est une prière pour découvrir le caractère de notre Père Céleste. Tant qu'on croit que Dieu est un Père fouettard, on va avoir du mal à être en relation continue avec Dieu. Parce que pour être en relation continue avec Dieu, c'est comme si on est sous le regard de quelqu'un qui nous juge, qui nous écrase, qui nous enferme. Le Père Céleste n'est pas comme ça. Est-ce que Dieu veut que nous péchions?
Non. Non.
Est-ce que Dieu veut que nous vivions une vie de sainteté?
Oui.
Oui. Est-ce qu'il veut qu'on la vive en se faisant fouetter?
Non.
En se faisant botter le derrière? En se faisant punir régulièrement?
Non.
Non. Il veut qu'on la vive dans la confiance qu'il est un bon père et que sa relation, la relation avec lui, c'est ce qui va nous donner de la force. Comment est-ce que ce fils va faire pour vivre une vie de dignité et droite? Il a besoin de son père. Il revient vers son père qui va le rétablir dans sa dignité. Il va l'inviter. Quand on se sent loin de Dieu, parfois, on se dit, ça va être compliqué. Il va falloir que je fasse ceci, ceci et cela, et puis après, je pourrai retrouver une relation paisible avec Dieu. Rappelez-vous de cette histoire. Jésus l'a expliqué, l'a enseigné pour nous rappeler que Dieu est un Père aimant et miséricordieux. Il ne pouvait pas faire plus fort pour l'époque. C'était choquant. C'était choquant. Dans l'évangile de Luc, on voit des paraboles choquantes. Il y a la parabole du bon samaritain. C'est une parabole profondément choquante. La parabole du fils prodigue est choquante. Choquante parce que ce n'est pas le père qu'on imagine. C'est un père qui veut être près de ses enfants. C'est un père qui veut encourager. C'est un père qui veut élever et non pas rabaisser comme on s'imagine souvent. Tant que vous n'avez pas découvert le caractère du Père, ça sera difficile pour vous d'imaginer que vous puissiez pardonner. Pourquoi est-ce que moi je pardonnerais si Dieu ne me pardonne pas facilement? Pourquoi moi est-ce que je vais faire dire des pardons si moi je n'ai pas été accueilli? Et vous avez à comprendre toujours plus. Alors je sais bien, nous sommes entre chrétiens. Nous sommes entre personnes qui avons déjà entendu l'évangile. Mais je vais vous dire, on peut passer 20 ans à écouter l'évangile avec une image de Dieu toujours père fouettard. On peut passer 40 ans comme ça. La question c'est, est-ce que nous sommes prêts à laisser tomber ces images reçues du passé que nous nous sommes fabriquées des fois pour découvrir le cœur aimant de Dieu? Et cette prière que je vous invite à faire pendant cette semaine, c'est une prière pour que Dieu puisse purifier votre imagination. Un peu comme je vous disais là, Maître Eckhart, ce monsieur du XIIe siècle, disait « Dieu délivre de moi de Dieu ». J'aimerais vous lire cette prière et je vous invite à l'emmener avec vous à la fin, la minute de la fin, si vous voulez, vous pourrez la prier. Et pendant cette semaine, et si vous le souhaitez, si vous sentez que c'est important pour vous, que vous avez un décalage entre l'image que vous avez de Dieu et telle que Dieu est, que vous le découvrez dans la parabole du fils prodigue, du fils retrouvé, priez cette prière, demandez à Dieu son aide. Je vous lis la prière. Père Céleste, parfois, il m'est difficile de te voir tel que tu es vraiment. Par la foi, dans le témoignage de Jésus, cependant, je t'accepte comme mon Père céleste, miséricordieux. Un Père qui m'aime avec un amour généreux. Un Père d'une patience immense. Un Père profondément désireux d'être en communion avec moi. Un Père qui se préoccupe de moi comme son enfant, davantage que de mon péché. Mon Père, qui te réjouis quand je me tourne vers toi et me détourne de mon péché, que ce soit un acte précis ou une habitude, expose les erreurs de ma pensée envers toi et remplis-moi de la vérité, car je sais qu'en accueillant la vérité, je serai libéré. Amen. Cette prière, vous voyez la couleur? En haut, c'est noir, et en bas de la prière, c'est blanc. Parce que tant que nous sommes dans les ténèbres par rapport à qui est Dieu, c'est difficile de vivre une relation avec Dieu. C'est difficile de se réconcilier avec Dieu. Si on a eu une saison de notre vie où on a été éloigné, on se dit j'ai à faire ceci, ceci et cela et je pourrai ensuite être réconcilié. Est-ce que le fils prodigue a eu besoin de faire une confession très longue pour que son père l'accueille? Est-ce qu'il a eu besoin de travailler pendant un certain temps pour qu'il puisse être accueilli?
Non.
Est-ce qu'il a eu besoin de regagner tout l'héritage qu'il avait perdu avant que son père lui dise « Je te pardonne » ?
Non.
Est-ce qu'il a eu besoin de s'humilier pour que son père lui pardonne ?
Oui.
Oui et non. S'humilier dans le sens de reconnaître qu'il s'est éloigné. Mais est-ce que son père lui a dit « Continue, vas-y » ?
Non.
Il avait juste besoin de se détourner du péché et de se tourner vers Dieu. La repentance, c'est pas une question de crier plusieurs fois « Dieu, combien je suis pécheur, aie pitié de moi, je suis pécheur ». Quand vous répétez ça, vous avez souvent l'idée qu'il faut se confesser bien longtemps pour que Dieu puisse nous pardonner. Est-ce que le fils a eu besoin de demander pardon longtemps pour que son père l'accueille ?
Non, non.
Non. Ce qui est vrai pour ce fils est vrai pour nous. Se détourner du péché, oui. Avoir besoin de faire tout ça, c'est pas le Père céleste, ça. C'est pas Dieu le Père. Dieu avait créé une façon de se réconcilier avec lui depuis le début. Il demandait à ce qu'on soit sincère quand on se repent. Une des façons dans l'Ancien Testament, c'était d'amener un sacrifice. Amener un sacrifice, c'était dire « Je reconnais que c'est sérieux ce que j'ai fait de mal. Je t'offre ce sacrifice et je te demande pardon. » Est-ce que les chrétiens, on a besoin de faire des sacrifices pour demander à Dieu de nous pardonner et de nous réconcilier ?
Non, le sacrifice a été fait déjà.
Si le sacrifice est déjà fait, est-ce que le pardon est déjà donné ?
Oui.
Le pardon est déjà là, par le sang de Jésus-Christ, par la grâce de Jésus-Christ. Son pardon est déjà là. Se réconcilier avec Dieu n'est pas tellement une question de confesser parfaitement et de chercher tous ses péchés comme si on se dit « Ok, ou j'ai oublié de confesser ce péché. » Si vous avez besoin, si vous le souhaitez, vous pouvez dire « Esprit Saint, montre-moi. » Et montre-moi s'il y a des péchés dans ma vie et vous les confessez, vous demandez pardon à Dieu. Mais l'important, c'est de venir à Dieu avant tout. Et avant d'avoir une confession parfaite, revenez à Dieu. Revenez à Dieu parce que c'est lui qui vous aidera à voir s'il y a des choses à changer encore. Mais n'imaginez pas que vous allez changer et devenir tel que Dieu veut que vous le soyez sans revenir à lui d'abord. Le fils, quand il était éloigné des ressources du Père. Quand il est éloigné des ressources du Père, il se rend compte qu'il ne peut rien faire. Il ne peut même pas subvenir à ses propres besoins correctement. Si on pouvait traduire ça pour nous, on ne peut pas subvenir à nos besoins spirituels. Nos besoins de paix intérieure, notre besoin de joie. Ça va être en retrouvant la relation au Père qu'on va retrouver la paix et la joie. Et c'est en retrouvant finalement cette position d'enfant de Dieu. Quand l'enfant revient, est-ce que le Père lui dit maintenant « Je t'ai donné ton héritage, tu as pas respecté ton père, tu n'es plus mon fils, maintenant sois mon esclave si tu veux à manger. » Est-ce qu'il lui dit ça ? Non. Il le rétablit dans sa position de fils dès que l'enfant revient. Tout comme vous. Si vous vous êtes éloigné de Dieu sur un point, que ce soit par rapport à un acte, là dans la prière, que ce soit par rapport à un acte précis, les deux lignes, deux, trois lignes avant la fin, « Mon père, qui te réjouit quand je me tourne vers toi » et me détourne de mon péché. Que ce soit un acte précis ou une habitude. Ça peut être un acte de péché, ça peut être une habitude. Les deux, Dieu veut nous en délivrer. Quand c'est des actes, en général, ça va être le moment de ce qu'on appelle la justification, quand on demande pardon pour nos péchés. Puis quand on commence à grandir en tant que chrétien, on se rend compte que des fois, il y a des habitudes qui ne sont pas bonnes, des habitudes d'amertume, tout ce que vous pouvez nommer. Des choses que vous sentez, ce n'est pas juste, ce n'est pas bon. Vous pouvez vous en détourner, demander à Dieu, mais vous n'avez pas besoin de dire « Je vais faire des efforts pour m'en détourner par mes forces et ensuite Dieu va m'aider. » C'est Dieu qui va vous aider à vous en libérer. Donc venez à Dieu. La première étape, c'est de venir à Dieu. Il y a des gens, des fois, qui se fabriquent tout un programme. « Ok, je me suis éloigné de Dieu. D'abord, je dois mettre ma vie en ordre. Ensuite, je dois faire une confession en ordre. Ensuite, je dois faire ceci. Et après, je viens à Dieu. » Non. Ça ne veut pas dire que quand vous revenez à Dieu, il n'y aura pas des choses que vous aurez à rendre. Si vous avez volé, de rendre les choses que vous avez volées. Ça sera une partie de cette repentance. Mais ce n'est pas ce qui va vous gagner le pardon de Dieu. Le pardon de Dieu est déjà là. c'est vous retrouver la relation au Père qui est en jeu. Et on s'imagine des fois que quand la relation est cassée, Dieu est en colère et qu'il va nous détruire avec son tonnerre, mais si on se repent suffisamment tôt, on va éviter échapper la colère. Est-ce que c'est comme ça dans cette histoire? Non. Ça, c'est ce que Jésus essaye de nous dire par rapport au Père Céleste. Arrêtez de vous fabriquer un Dieu humain. Arrêtons de nous fabriquer un Dieu qui n'est pas Dieu. Et commençons à découvrir qui est Dieu le Père. Et en même temps qu'on découvre qui est Dieu le Père, il va vouloir nous libérer. Et nous libérer, ça va être en l'imitant lui, en imitant qui il est, pour être vraiment en paix avec Dieu, avoir la paix dans notre cœur. Et maintenant, j'aimerais me tourner vers la deuxième partie. Vous voyez en bas, il y a un deuxième morceau. Là, on a parlé du pardon du Père, de la grâce de Dieu. Maintenant, j'aimerais vous montrer comment nous évoluons vers une attitude de non-pardon. Aujourd'hui, nous allons parler de ce processus, comment on s'enferme et le chemin de délivrance brièvement. La semaine prochaine, je vais être beaucoup plus pratique au niveau de, si vous sentez que c'est utile, quelles sont les étapes? Comment on fait pour pardonner à quelqu'un d'autre? Qu'est-ce qui est en jeu? Comment on fait pour se pardonner à soi-même? Parce que souvent, on ne se pardonne pas. On se dit, par exemple, j'ai eu tel problème parce que j'ai fait une bêtise. Je ne me pardonnerai jamais d'avoir fait cette bêtise. Des fois, on s'en veut. Et il y a tout ça qui nous embrouille. Ça, on en parlera de manière très concrète, avec des étapes, la semaine prochaine. Mais avant tout, j'aimerais que vous ayez une idée de qu'est-ce qui se passe quand on ne pardonne pas. Qu'est-ce qui se passe dans notre cœur? Et j'aimerais vous décrire 7 étapes qui mènent vers les ténèbres. Vous voyez le texte qui devient sombre. Et ensuite, depuis 8 jusqu'à 10, c'est comment sortir de ces ténèbres. Étape menant de blessures et rejets vers un esprit sans pardon. Étape 1 à 7. Et étape pour trouver guérison et délivrance de cet esprit sans miséricorde. Étape 8 à 10. Donc nous allons commencer le graphique. Vous voyez, la première, c'est nous sommes blessés. Première étape, nous sommes blessés. Toute blessure humaine est souvent une question de rejet. On se sent rejeté. On s'est fait battre, par exemple, on s'est senti rejeté de la personne, que ce soit un père, un copain d'école ou quoi. On a quelqu'un au travail qui n'a pas fait ce qu'il a dit. Par exemple, je travaille et puis mon chef me dit « je vais te donner une promotion » et il ne me la donne pas. Sentiment de rejet. On est rejeté, on ne nous a pas dit ce qu'on a dit qu'on ferait. Dans une amitié, un ami nous dit « voilà, fais ceci, cela » et puis il ne le fait pas. Ou bien, il nous rejette et ne veut plus être en relation avec nous, coupe la relation. On est blessé. On est des êtres de relation. Et toute relation abîmée nous blesse. Ce qu'on ne se rend pas compte, c'est que sans pardon, la blessure va continuer à travailler dans notre cœur. Va s'enraciner plus profond jusqu'à nous détruire au plus profond de notre âme. Alors ça se passe en plusieurs étapes, cela. La deuxième étape, c'est que quand on est vraiment blessé, on est confus, on est dans le choc, désemparé. Quand on se fait agresser, que ce soit par exemple quelqu'un qui vous bat, qui vous frappe ou qui vous vole, on est complètement désemparé. Si sur la route vous avez un accident, quelqu'un vous rentre dedans, c'est comme si on est... Il y a le choc, des fois la blessure, et ensuite on est un peu perdu, on ne sait plus trop où on est. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, c'est comme si on perd ses repères. Si on voit qu'on a cambriolé notre maison, quand on revient, on ne sait plus où on en est. On n'a plus les affaires qui nous aidaient à nous relier au monde concret. Si on nous a donné un coup, si on vous donne un coup, au visage, vous êtes complètement sonné. Vous êtes, des fois, on ne sait pas, quand on n'est pas habitué, on ne sait même pas comment on réagit à ça. Ça, c'est la deuxième étape. On est confus, désemparé. Troisième étape, nous cherchons des détours. Cette expérience douloureuse de rejet, cette blessure, qui nous a rendus confus, on va chercher à éviter. On va tenter d'éviter ou de cacher la douleur. Alors comment on va faire? On va éviter le lieu où il y a eu un problème peut-être. Si c'est quelqu'un qui tape tout le monde, ben, évitez la relation. Mais souvent, si c'est avec un ami qui a dit une parole qui n'était pas juste, si on évite la relation, ça veut dire qu'il va falloir couper cette amitié. Si on est dans une église où quelqu'un a fait quelque chose qui n'était pas juste, et qu'on n'a pas pardonné, on va devoir changer d'église. Si on est avec un frère ou une sœur qui nous a pas et que on a été blessé et que la personne, on lui en veut, on ne va plus aller voir la personne. Vous voyez comment le monde commence à se rétrécir? Notre univers devient plus petit. On va éviter des lieux, on va éviter des personnes, des choses, des pensées. Cette page sur laquelle je vous partage est tirée d'un livre qui s'appelle, c'est la dernière ligne en bas, le don du pardon de Charles Stanley. Et dedans, il raconte qu'il a accompagné beaucoup de personnes. Et il s'est rendu compte que toutes les personnes droguées, que ce soit avec l'alcool, avec d'autres drogues, avec le jeu, toutes les formes de drogue, l'entrée dans une forme de drogue, dans une dépendance, est quasiment toujours lié à un non-pardon, à quelqu'un qui nous a blessés, à une relation qui a été détruite. Et finalement, la drogue, alors ceux qui étudient au niveau psychologique, par exemple, l'alcool devient un remplaçant pour les relations humaines. Et même au niveau chimique, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui se passe où la personne prend du plaisir avec son alcool au lieu de prendre du plaisir avec les autres. Et ça détruit la personne de l'intérieur. Donc pour dire qu'on peut en arriver même à se droguer, pour essayer d'oublier, pour essayer de dire, je veux être joyeux, je veux retrouver, parce que qu'est-ce qui se passe? Quand on est blessé et qu'on n'a pas pardonné, il y a une partie en nous qui est prisonnière. La joie, la paix, la joie de vivre, ce qui est de bon qui a été mis en nous est prisonnier. On n'est plus capable d'être apaisé. Parce qu'on sait qu'il y a tout un ensemble de choses dans le monde qu'on doit éviter. On doit éviter des lieux, on doit éviter des personnes, on doit éviter des choses, on doit éviter des pensées parce que sinon ces pensées, on est enfermé dans une boîte. Et quand on est enfermé dans une boîte, qu'est-ce que vous avez envie de faire? Est-ce que si je vous disais reste comme ça pendant 10 heures, ça va pour vous? Qu'est-ce qu'on a envie de faire? On a envie de faire sauter la boîte. Mais si on essaye de la faire sauter physiquement, charnellement, on ne va pas y arriver. Alors, l'étape numéro 4, ensuite, une fois qu'on cherche à éviter des lieux, on continue à descendre. On va creuser un trou et on va essayer de tout oublier. Creuser un trou, vous voyez, c'est comme si vous creusez un trou, vous essayez de mettre les souvenirs là et oublier. Vous vous dites, bon, c'est douloureux, c'est comme si un bras était coupé, mais c'est pas grave, j'oublie, je veux oublier. Mais vous allez marcher dans la vie comme des manchots, comme des boiteux, comme des borgnes, et vous aurez une partie de votre vie qui est coupée. Vous allez avoir à avancer dans la vie, et il y a des choses que vous ne pourrez pas faire. Et il y a des personnes avec qui vous ne pourrez pas entrer en relation. Certains ressembleront à ceux qui vous ont blessé. Donc si vous trouvez une ressemblance, vous vous dites, celui-là il est dangereux, je ne veux pas de relation avec lui. Et cet univers vous enferme. Vous êtes dans une toute petite boîte. Non seulement on creuse un trou pour essayer d'oublier cela, mais l'étape numéro 5, on nie le problème. On dit, non, il n'y a pas de problème, c'est bon. Ça va, j'ai aucun problème, moi. Moi, je vais très bien. Quand nous nions le problème, en général, on va dire, j'ai réglé cela. Des fois, il y en a même, ils disent, c'est bon, j'ai pardonné. Bon, il y a encore des sentiments quand la personne vient, mais c'est normal. J'ai pardonné, c'est bon, c'est fini. Parce qu'on a envie de dire, non, je suis pas prisonnier, moi. Je suis pas enfermé. Hein, je suis plus intelligent que ça, je suis libre. Mais finalement, c'est nier le problème. L'étape numéro 6, quand on poursuit cette descente, si je peux dire, c'est une descente aux enfers. Hein. aux enfers des ténèbres, finalement, de notre cœur. Numéro 6, on devient abattu. Cet abattement va se traduire par plusieurs phénomènes. Je vous disais, si on est dans une petite boîte, qu'est-ce qu'on veut faire ?
Sortir.
Sortir. Eh bien, on va essayer de le faire. Alors, ça va se traduire comment ? Manque de contrôle de soi, sensibilité à fleur de peau. Manque de contrôle de soi, on se mettra en colère dans des situations de manière très rapide, on ne sait pas pourquoi, mais pff, ça explose. Et on dit, moi je suis explosif, c'est mon caractère, c'est comme ça. Eh bien ça, mon frère, ma sœur, c'est souvent lié à un non-pardon. C'est souvent lié à une blessure qui n'a pas été visitée par l'Esprit Saint et que Dieu n'a pas pu guérir. Sensibilité à fleur de peau. Moi, si on me parle de ce sujet-là, alors là, j'explose. Là, si on me manque de respect de telle façon-là, une chose qui m'a frappé quand je suis arrivé à la Réunion, pour vous dire, j'étais arrivé à la poste, j'attendais, je voulais passer, et j'étais surpris d'une chose. Il y avait une sorte de dame qui était, pas policière, mais pour garder l'ordre dans la poste. Je me disais, mais à quoi ça sert? Pourquoi est-ce qu'il y a une dame qui fait ça? J'ai pas eu besoin de longtemps. Au bout de 10 minutes, il y a une dame qui parle à l'autre, l'autre qui répond un cran plus haut. En 2 minutes, elle en vient aux mains, elle commence à se battre dans la poste. J'avais jamais vu ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Je dirais, quand on a un caractère explosif, c'est souvent qu'il y a eu des blessures derrière sur lesquelles on a mis un sparadrap. Imaginez que vous avez une blessure en profondeur, vous mettez un sparadrap dessus. Est-ce qu'un sparadrap, ça va guérir une blessure profonde?
Non.
Est-ce que ça va remplacer de mettre de l'alcool pour purifier la blessure?
Non.
Un sparadrap ne va pas faire l'affaire. Le sparadrap, c'est l'étape numéro 5, on nie le problème. C'est bon, j'ai réglé ça, c'est guéri.
Qu'est-ce que c'est, un sparadrap?
Un sparadrap, a plaster. Plaster. Avec l'accent. Là, je peux te dire le mot, mais l'accent, là, il faut que j'ai de l'aide. Plaster. le fait, finalement, d'avoir cette sensibilité à fleur de peau est une conséquence. Vous comprenez bien, si on est dans une petite boîte, est-ce qu'on se sent à l'aise?
Non.
Non. Comme on ne se sent pas à l'aise, on va vouloir être à l'aise. Et on va essayer de faire sauter les murs. On va essayer d'y aller. Alors, comment on fait? Ben, on va avoir un caractère qui est incontrôlable. Et on ne sait pas pourquoi, on ne sait plus d'où ça vient. À un moment donné, quand le pardon n'a pas été donné dans suffisamment de zones, notre caractère est devenu tellement incontrôlable qu'on ne sait même plus d'où ça vient. On sait juste que ça part. On sait, ça vient comme ça, pff, j'explose. Il y a des cas, moi quand j'étais plus jeune, je vous partageais la semaine dernière, j'avais eu des gens qui m'avaient humilié. C'était les gens qui étaient extravertis ou qui étaient à l'aise dans le contact physique. Il suffisait que je voie quelqu'un comme ça, j'avais une haine et une colère en moi qui montaient. Je ne savais pas pourquoi. Je voyais quelqu'un à 10 mètres qui commençait à jouer avec quelqu'un d'autre, et en moi, il y avait une colère qui montait. Ça montait, je ne savais pas d'où ça venait. Et je me disais, on rationalise. Alors moi, ma technique, c'était de dire, ils sont pas adultes, ou ils jouent comme des gamins, ou on trouve des techniques, hein. On trouve des techniques pour juger. Mais j'étais prisonnier. J'étais prisonnier. Il y a tout un ensemble de relations. Je ne pouvais plus les avoir. Et quand on est dans le non-pardon, c'est ça. On est dans une boîte et on essaye d'en sortir avec la chair. Et la chair, ça fait mal. Ça fait mal à nous, ça fait mal aux autres. La chair, quand je vous dis la chair, ça n'a rien à voir avec la sexualité. Hein. La chair, dans la pensée de Paul, c'est tout ce qui est centré sur nous. Hein. Tout ce qui est réaction par rapport à moi, je veux, et qui n'est pas, je dirais, apaisé par l'esprit ou renouvelé par l'esprit. Dans cette sensibilité à fleur de peau, il y a aussi des fois la timidité. Dans mon cas, moi, c'était timidité, incapacité à entrer en relation avec les autres parce que, comme on a été blessé, on veut éviter. Hein? On veut éviter les relations. Donc, on va devenir plus timide, plus renfermé. Un esprit critique aussi. On va juger, on va dire un tel est comme ça, il n'est pas. Parce qu'on n'est pas à l'aise dans les relations, donc. Si c'est pas de notre faute qu'on n'est pas à l'aise, c'est que forcément c'est l'autre qui fait quelque chose qui n'est pas bien. C'est logique. Le problème, c'est que on dit aux autres qu'ils ont des problèmes alors que le problème vient de nous. Est-ce que Jésus a eu du mal à être en paix, à être joyeux, à aimer quand il est venu dans son monde? Non. Pourtant, c'était un monde rempli de péchés. Vous pouvez vivre dans la paix de Dieu même si vous vivez dans un monde où il y a beaucoup de problèmes. Et on voit donc cette étape numéro 6, sensibilité à fleur de peau, timidité, esprit critique, jalousie. On est jaloux aussi. Bon ben, dans mon cas, moi j'étais jaloux des gens qui étaient à l'aise pour le contact humain, pour jouer, pour se réjouir. Je ne pouvais pas me réjouir autant qu'eux. Et peut-être certains d'entre vous vous avez exprimé une jalousie. Des personnes ont eu des choses que moi je n'ai pas eues. Je n'avais pas eu une enfance aussi joyeuse que d'autres, donc j'étais jaloux de ceux qui avaient eu des papas et mamans aimants, qui les avaient protégés, comme, etc., qui pouvaient jouer, qui avaient eu beaucoup de copains. Je n'avais pas beaucoup de copains. Peut-être vous avez des jalousies autres. Un tel couple va mieux que moi, ou tel enfant a des parents plus sympas, ou tel autre a des... Jalousie. Tout ça est lié à un esprit qui n'a pas pardonné. Un esprit de rancœur, un esprit amer. Numéro 7. Une fois qu'on est devenu abattu, qu'on est devenu vraiment prisonnier de tout ça, on devient découragé. On perd espoir. C'est l'étape numéro 7. Quand on perd l'espoir, on se dit, il n'y a rien à faire. Les gens, ils sont vraiment pas respectueux. On ne peut pas avoir de vrais amis. On ne peut pas vraiment se confier. Qu'est-ce qui se passe? Ma boîte est tellement étroite. J'ai cru qu'elle était faite de papier. Au numéro 6, j'ai essayé de la faire casser en donnant des coups. Je me suis rendu compte qu'elle n'était pas faite de papier, elle est faite de béton. Je me suis abîmé les coudes. Je suis prisonnier dans une prison en béton. C'est comme ça qu'on se ressent à ce moment-là. Ça va être la dépression. Ça va être finalement la destruction de tout ce qu'il y a de bon en nous. Et on va commencer à détruire les autres. Une des expériences des psychologues, c'est que quelqu'un qui est dépressif, vous ne pouvez pas l'en sortir s'il ne choisit pas de s'en sortir. Si vous restez longtemps avec quelqu'un dépressif, vous risquez de tomber dans la dépression vous-même. Parce que c'est un esprit tourné vers le négatif en continu. Et cet esprit tourné vers le négatif, finalement, qui est devenu prisonnier de lui-même, va avoir tendance à essayer d'emprisonner les autres. Et on amène les autres vers cet enfermement. Et à un moment donné, on se dit, mais j'en ai marre, on va donner des conseils à la personne, et puis si elle ne les suit pas, on se dit, j'ai fait tout ce que je pouvais. Et je dirais, si vous voyez quelqu'un qui est prisonnier d'un état dépressif, priez pour la personne. Mais rappelez-vous que ça sera la personne qui aura à choisir, paradoxalement, de se tourner vers la lumière. Si on se tourne vers les ténèbres, on a forcément des ténèbres dans notre cœur. Alors, quand vous encouragez quelqu'un qui est déprimé, je ne suis pas en train de vous dire « Ah, t'es dépressif, c'est ta faute et tu y resteras autant que tu veux. Mais moi, je ne m'occupe pas de toi. » C'est comme ça qu'on fait, à votre avis?
Oui. C'est comme ça.
Est-ce que c'est bon?
Non.
On est appelé à étendre la grâce du Seigneur, d'inviter la personne, mais en étant conscient que nous pouvons faire une part, mais de dire à la personne « Je t'encourage. » Tourne-toi vers ce qui est positif. Sinon, on devient comme hypnotisé par tout ce qui est mauvais. C'est comme si à un moment donné, cette attitude de non-pardon va se cristalliser dans notre vie et on va sombrer dans le désespoir. Désespoir pour nous, mais désespoir dans les relations. Et ce qu'on croyait détruire seulement nous va commencer à détruire ceux qui nous sont proches. On va commencer à détruire ceux que nous aimons le plus. Parce que cette attitude amère va avoir un impact sur toutes nos relations. Il va commencer à se répandre comme une maladie partout autour. On a essayé au début de limiter la casse. On se dit, ok, on va se limiter à ça si j'évite ceci, ceci, cela. Et on se rend compte que finalement, cette prison est vraiment étroite. Et plus on avance, plus elle est étroite. Et plus elle est étroite, resserré, plus il va avoir de l'amertume, de la hargne, et la dépression, c'est une sorte de colère rentrée contre nous-mêmes. La dépression, il y a une forme de violence, de colère, et on la retourne vers nous-mêmes. Ça, c'est le processus. C'est les ténèbres. Et on arrive, il y a des gens qui en arrivent. La dernière étape que je ne mentionne pas, c'est le suicide. Le suicide n'est jamais encouragé. Le suicide n'est pas finalement une manifestation de l'esprit. Judas, pourquoi il s'est suicidé? Parce qu'il ne s'est pas pardonné. Il ne s'est pas pardonné à lui-même. Pardonner, c'est à soi-même et aux autres. Et on en parlera plus en détail la semaine prochaine, de manière concrète. La première étape pour en sortir de cette descente aux enfers, c'est le numéro 8. Nous découvrons la vérité, cette racine d'amertume dans notre vie. Nous découvrons le lien avec notre attitude présente. En gros, on découvre le lien entre le non-pardon et cette difficulté à être joyeux, à être apaisé, à être doux, à être ce que Jésus nous invite à être. On commence à découvrir qu'il y a un lien entre ce non-pardon et la vie que nous aimerions vivre. Une vie de joie, de paix, de grâce. On se rend compte que les deux ne sont pas compatibles. Ça, c'est la première étape pour pouvoir sortir de ce trou, sortir de cet enfer. Ensuite, l'étape numéro 9, que nous décrirons plus précisément la semaine prochaine, c'est nous acceptons notre responsabilité. Nous arrêtons de blâmer les autres, nous ouvrons notre cœur à Dieu. Au lieu de blâmer les autres par rapport à ce qui ne va pas bien dans notre vie, nous commençons à reconnaître que nous avons nous-mêmes à pardonner. Je vais être honnête avec vous, pardonner, la première personne qui en bénéficie, c'est pas l'autre, c'est vous. Pardonner, c'est pour vous être libre. Pardonner aux autres, c'est la capacité à être libéré du péché de l'autre. Tant que vous ne pardonnez pas, vous êtes prisonnier du péché de l'autre, parce que vous réagissez. Vous avez des enfants qui grandissent, des fois, en disant « Je ne ferai jamais comme mes parents. » Les parents ont fait des choses qui n'étaient pas justes. « Je ferai l'opposé. » « Mon père m'a battu, je vais tout donner à mon enfant. » « Ma mère était trop proche de moi, moi je m'ai gardé une distance. » Vous savez quoi ? Ça, ce n'est pas de l'amour. Ce n'est pas de l'amour. Et ça portera des fruits d'amertume. Un père qui bat son enfant. Première génération, je ne ferai plus, je ne donnerai pas un seul coup à mes enfants. Deuxième génération, ah ma mère ne m'a pas corrigé quand il devait, ce qui fait que mon caractère n'a pas grandi comme il faut. Moi je donnerai les corrections qu'il faut à mes enfants. Troisième génération, on retrouve la violence dans la, chez les arrière-petits-enfants. Et ça redevient un cycle. Battre, ne pas corriger, commencer à corriger, ouais, durement, et c'est reparti pour un tour. Et le péché continue. Et il prend toutes ses formes. Et on se dit, mais quand est-ce que ça va finir ça? Mon père et ma maman étaient trop proches, elles voulaient tout savoir de moi. Moi, je vais garder de la distance avec mes enfants. Les enfants, ah, oh, moi je me suis pas senti aimé par ma mère, elle était toujours à distance. Qu'est-ce qu'on va faire? Viens mon chéri, on fait des bisous partout, même si l'enfant ne veut pas. Je sais moi ce que c'est. On définit l'amour par rapport à ce que nous croyons être l'amour, sans avoir mis ça à la lumière de Dieu. Qu'est-ce que nous faisons? Nous reproduisons le péché par nos bons sentiments qui ne sont pas enracinés dans l'amour du Père Céleste. Tant que vous n'êtes pas à la lumière de Dieu, vous êtes en train de reproduire le péché. Et quand vient la lumière, on découvre la vérité, Dieu nous libère. Il n'attend que ça. Pensez au Père Céleste. Pensez à ce Père aimant. Quand son fils revient et lui dit « Je suis désolé, j'ai péché contre toi et contre le ciel. » Qu'est-ce qu'il fait, son père? Il lui dit quoi? Viens, viens, viens avec moi, sois en communion avec moi, pour être réconcilié, pour être rétabli. Et finalement, quand on découvre la vérité, on a accepté notre responsabilité. Le fils prodigue a eu à reconnaître, je me suis planté, j'ai à retrouver la relation avec mon père. Et quand on accepte notre responsabilité, on arrête de blâmer les autres. On arrête de dire, un tel, tu fais pas ce qu'il faut. Si on est un mari, on dira, ma femme, elle fait pas la cuisine comme il faut. Ou une femme, mon mari ne fait pas ce qu'il faut à tel endroit. Ou un enfant, elle ne fait jamais ce qu'il faut. Ça nous donne le droit de pouvoir les punir, de se venger sur les autres. On arrête de se venger. On arrête finalement de propager. On arrête d'être prisonnier, on accepte notre responsabilité. J'ai à pardonner ceux qui m'ont fait du mal dans le passé. Et s'il y en a beaucoup, vous faites un par un. Et vous retrouvez la paix et la beauté de la communion avec Dieu, la joie d'être vraiment apaisé, d'être uni à Dieu, d'être complètement vous-même. Vous n'êtes plus obligé d'éviter des personnes, vous n'êtes plus obligé d'éviter des situations, des pensées, vous redevenez libre. Votre prison, c'est comme un château de cartes, le Seigneur souffle dessus et tout d'un coup vous vous dites, mais je suis libre. Je suis libre. Je suis libre d'aimer. Je suis libre de me réjouir. Certaines personnes, je sais, il faut faire un peu attention et discerner. Mais je suis libre. Je n'ai plus ce tempérament qui saute d'un seul coup. Je n'ai plus cette sensibilité à fleur de peau. Je suis libre d'aimer et d'être aimé. Donc, numéro 9, accepter notre responsabilité. Et numéro 10, nous sommes libérés. Et c'est comme si vous avez un immense nuage qui vous gardait des ténèbres dans votre vie qui va passer. Et vous retrouvez un soleil et une joie et un sentiment d'une liberté que vous n'avez peut-être pas connu depuis longtemps. Tout d'un coup, vous vous dites, je suis libre. Je suis vraiment libre d'être celui ou celle que Dieu a voulu que je sois. C'est que ce que je souhaite pour chacun d'entre vous, d'être libre des chaînes du passé, aussi anciennes soient-elles, aussi fortes soient-elles. Si Dieu a créé le monde, est-ce qu'il peut casser les chaînes? On a des films Superman, on se dit, il est super fort celui-là. On n'a pas besoin de Superman. On a Jésus. Il claque dans les doigts et il peut créer un univers. Qu'est-ce que c'est des chaînes? C'est même pas un petit bout de papier pour nous. C'est ce que le Père Céleste veut faire pour chacun d'entre nous. Nous inviter à la liberté. Et je vous invite à reconnaître dans quelle situation vous êtes. Est-ce que, quand vous lisez l'histoire du fils prodigue, vous vous dites, c'est exactement comme ça que je vois le Père Céleste? C'est comme ça que je le vois et je viens à lui avec joie dans la journée parce que je sais qu'il m'aime. Et dès que je suis un peu abattu, je viens tout de suite à lui parce que je sais que c'est un Père aimant. Si c'est le cas, regardez s'il y a quelque chose du côté numéro 2. Peut-être vous avez du bas de la feuille par rapport aux étapes, parce qu'il y a des personnes qui vous ont blessé, il faut pardonner. Mon sentiment, c'est que pour les deux étapes seront importantes pour vous, de vraiment être renouvelé dans la pensée du Père pour chacun d'entre nous, de vraiment bien comprendre combien Dieu est un Père aimant. Et en même temps qu'on comprend que Dieu est un Père aimant, on comprend que le chemin d'être pardonné et de pardonner n'est pas un chemin douloureux, c'est un chemin de joie, de libération. Est-ce qu'il y aura des efforts à faire pour pardonner aux personnes qui vous ont fait du mal?
Non.
Je vais être honnête avec vous aussi. C'est gentil, je vous remercie de m'encourager en tant que prédicateur, mais si, il y a des efforts à faire. Parce que si les blessures sont passées, que vous vous en rappelez, ça demande un effort. Mais cet effort, si une maman va avoir un enfant, on en parlait mardi par rapport aux douleurs de l'enfantement. Quand la maman sait qu'il y a des douleurs pour l'enfantement, est-ce qu'elle se dit, elles sont insupportables ces douleurs, j'en veux plus?
Non.
Non. On sait qu'il y aura une joie bien plus grande après.
J'en fais
quatre. Hein? Marie, tu as plus d'expérience. Anis, toi, tu as 3. Toi aussi, tu connais l'expérience.
Moi, j'ai dit j'en veux plus, j'ai arrêté.
Toi, tu as eu un. Et toi, mes fillettes, combien d'enfants tu as eu? Combien d'enfants? Neuf en tout? C'est douloureux quand le bébé doit sortir, hein? Mais quand il est sorti, quand il est là, comment c'est? C'est fini? La douleur, elle est disparue?
Maintenant, il y a la péridurale.
Alors, il y a péridurale pour essayer de rendre moins douloureux. On va laisser la péridurale, il n'y en a pas au niveau spirituel. Il y a hein?
Ah. Il faut enfanter de la douleur.
Oui, alors, je dirais ça, s'il y a une façon de souffrir moins, le Seigneur, il n'y a pas de problème. Vous pouvez utiliser, pour moi, hein. Après, vous pouvez discuter, Anise, il y a des femmes qui vont défendre la joie de sentir quand ça se passe, d'autres qui vont dire c'est trop douloureux. Bon, je dirais là, mesdames, je vous laisse, c'est à vous d'évaluer, c'est pas moi qui aurai des bébés, donc... Voilà, on va laisser ici. Mon but, c'était juste de vous parler de une souffrance quand vous voyez la libération qui est en jeu, ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Est-ce que on va retenir ce pardon en se disant, c'est douloureux, je veux oublier? Non, on peut pas oublier. On va juste continuer à laisser cette plaie détruire dans nos cœurs. Et on est invité à vraiment dire, ok, comment on fait maintenant? Comment on fait sur les choses simples? pardonner. Et puis s'il y a des choses plus compliquées, demandez au Seigneur sa grâce. Comment on fait? J'en parlerai de manière pratique la semaine prochaine. Mais déjà, je vous invite à prier cette première prière pour toujours plus comprendre le cœur de Dieu, qu'il vous révèle son cœur. Lisez cette histoire du fils prodigue et demandez vraiment que Dieu vous révèle son cœur aimant. Deuxième partie, s'il y a des endroits où vous sentez que, si vous sentez que vous avez un caractère impétueux qui réagit très vite, s'il y a des situations, des places, des personnes avec qui vous dites « Je ne supporte pas, je ne peux pas les entendre, je ne peux pas » ou s'il y a des parties de votre vie, « Je ne veux pas y repenser. » Demandez-vous, est-ce qu'il y a eu ce chemin qui a été fait par rapport à ça? Où est-ce que vous en êtes? À quelle étape? Et est-ce que vous êtes sorti du piège? Parce que c'est un piège pour l'âme. C'est un piège pour vos âmes, ce non-pardon. Un piège qui enferme. Et le but du Seigneur Jésus, c'est de nous rendre libres. La vérité nous rendra libres. Maintenant, on va prendre un temps d'une minute de prière. Et ma question, c'est, où est-ce que vous en êtes? Où est-ce que vous en êtes? La question que le Seigneur vous demande, c'est, où est-ce que vous en êtes? Est-ce que vous avez trouvé la paix et la réconciliation avec le Père, au plus profond de vous-même, pour être réconcilié aussi avec les autres? Pour trouver vraiment cet apaisement, ce caractère paisible, joyeux, patient et doux que Dieu veut créer en vous et qu'il peut créer, qu'il peut recréer, renouveler, pour que nous puissions aimer comme lui veut, sans juger, sans écraser les autres, afin que nous puissions être des porteurs de vie dans ce monde où il y a tant de ténèbres. Prions, et je vous invite à prendre un temps de prière pour reconnaître devant Dieu où vous en êtes. Seigneur Jésus-Christ, tu es venu pour nous révéler que le Père était un Père aimant, que le Père céleste n'était pas un Père qui attend de nous punir, mais un Père qui attend de nous voir nous jeter dans ses bras, comme des enfants qui se réjouissent de trouver un Père qui ne va pas les battre, qui ne va pas les écraser, mais qui va les élever, qui va nous aider à grandir à la stature de Jésus-Christ, à grandir dans l'amour de Jésus, à être à l'image de ton Fils, premier-né, notre Seigneur Jésus. Père Céleste, apprends-nous à te connaître tel que tu es. Apprends-nous à reconnaître s'il y a eu des chemins de mort, à sortir de ces chemins de mort par ta grâce, par la grâce de ton esprit, à être libéré, à être délivré, pour vivre cette vie de joie, cette vie dans laquelle tu veux faire couler des bénédictions et du sens, afin que nous puissions aimer, en vérité. En ton nom nous prions, Seigneur Jésus-Christ. Guide-nous. Amen. Seigneur Jésus-Christ, sonde nos cœurs, Esprit Saint, comme ta pluie qui pénètre en profondeur. Imprègne-nous de ton esprit aide-nous à voir. Y a-t-il des ténèbres dans notre cœur? Y a-t-il des endroits où ton pardon, comme une pluie bienfaisante, n'a pas encore coulé? Le pardon de nos péchés, demande de pardon, et de donner le pardon aussi, pour être dans le flot de ton esprit, pour être dans le flot de ton amour, et y demeurer. Nous te remettons cette semaine, Seigneur Jésus-Christ. Guide-nous, guide chacun de nous, que chacun puisse recevoir les fruits de ton pardon et les laisser se répandre dans leur vie, complètement, dans nos vies. Montre-nous, Seigneur, s'il y a des choses que nous n'avons pas pardonnées, s'il y a des choses qui nous emprisonnent encore, afin que nous puissions te ressembler. Nous puissions être à ton image, un Dieu d'amour, de vérité et de paix. En ton nom je prie, Seigneur Jésus-Christ. Amen.